Alors, bonjour tout le monde. C'est l'émission du 1er juin de Voix de Service Magazine avec une équipe réduite. Alors, Francine Forgette au micro. Francine Forgette sera seule aujourd'hui puisque mes deux collègues, normalement, qui sont en studio avec moi, Hélène Bédard et Catherine Emmanuel Brunet. Oui, je l'ai même oublié. Alors, une absence et on oublie Catherine Emmanuel, pauvre elle. Ne sont pas avec moi aujourd'hui, mais je suis loin d'être seule puisque je suis accompagnée en régie par le tout efficient. Oui.
Vous êtes Mathieu. Peut-être seul au micro, mais là.
Mathieu Tessier. Bonjour Mathieu.
Bonjour. Merci de se retrouver seul sans ses camarades.
Bien, disons que c'est une première expérience. Alors, il faut toujours plonger à un moment donné, il paraît, dans la vie. Alors, pour moi, je le fais aujourd'hui, ce matin. Et c'est bien quand même parce que c'est une journée chaude qui est tout à fait appropriée.
C'est vrai?
Hein, pour faire des activités dans l'eau, disons ça comme ça.
Pour se baigner.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous allez nous lire?
Bien, aujourd'hui, Mathieu, disons que je vais faire l'émission en deux parties.
D'accord.
Alors, la première partie, on va parler beaucoup d'éducation, avec entre autres une entrevue fascinante avec un chercheur français qui dit que les ordinateurs n'arrivent pas à la cheville d'un nouveau-né, qui est un modèle absolu d'apprentissage, selon lui, et divers autres textes qui sont tirés de la revue Le Point. Et en deuxième partie, bien évidemment, on va revenir à ma revue Chouchou, qui est Québec Science.
Oui.
Oui, et cette fois, on va parler santé avec le docteur Google.
Docteur Google.
Oui, semble-t-il que tout le monde le consulte, ce cher docteur Google. On le connaît bien et nous donne des réponses, peut-être pas toujours ce qu'elle doit être, mais il y a des réponses, c'est ça. Alors, on va revenir là-dessus, effectivement, plusieurs questions, 50 questions, qui sont, en fait, 50 questions, 50 sujets sur lesquels les gens consultent régulièrement Dr. Google.
Parfait.
Voilà. Alors donc, le fameux scientifique dont je parlais tantôt, spécialiste des cerveaux et de l'apprentissage, c'est M. Stanislas Dehaene qui s'est penché beaucoup sur l'épanouissement cognitif. Alors, c'est une entrevue fascinante dans Le Point qui a été publiée le 10 mai 2018. Les propos ont été recueillis par toute une équipe, donc une équipe du Point, qui s'est entretenue avec M. Dehaene. Plasticité, QI, buzz des maths, neurones de la lecture, maîtrise des langues étrangères et vision, ce que nous apprend la science. La question du point. Très tôt, vous avez cherché à savoir comment les processus d'apprentissage se matérialisent dans le cerveau. La réponse de M. Dehaene. J'ai toujours été fascinée par le problème des origines de la pensée. J'ai eu mon premier ordinateur personnel à 14 ans, un TRS-80 qui est peut-être encore dans la cave de mes parents. À l'époque, le challenge, c'était de rendre la machine plus intelligente. Quand j'étais en maths, supérieur maths, on est dans le système français d'éducation, je pensais d'ailleurs faire ma carrière dans l'intelligence artificielle. Puis, je me suis rendu compte qu'il était plus utile d'aller voir comment le cerveau fonctionnait. J'ai fait ma thèse dans un laboratoire de psychologie cognitive. On essayait de comprendre comment fonctionnait le cerveau sur la base des temps de réponse ou des taux d'erreur des sujets. Ces travaux montraient déjà que le cerveau, contrairement aux machines, comprend les symboles qu'il reçoit. L'éducation doit arriver à souder les symboles à leur sens. Mais le cerveau du jeune enfant est vierge de toute connaissance, non? Pas du tout. Dans le cas des nombres, même les bébés ont une intuition des quantités. S'ils voient 12 ou 4 objets, ils savent faire la différence. Un sens intuitif préexiste. L'apparition des symboles modifie cette représentation. D'approximative, elle va devenir précise. C'est le début des mathématiques. C'est la même chose pour le langage. Le phonème, je m'excuse, que l'on peut définir comme l'unité élémentaire du langage parlé existe chez le bébé. Dans sa première année, celui-ci reconnaît tous les phonèmes de sa langue maternelle. Simplement, il le fait de façon inconsciente. Or, pour apprendre à lire, il faut rendre ces éléments conscients afin de les connecter aux séries de lettres au graphème. C'est tout l'objet de la lecture. Une personne analphabète ne peut manipuler les phonèmes comme un lettré. Elle ne sait pas enlever le premier son de Paris et dire Harry. L'éducation rend les représentations mentales conscientes, précises et différenciées les unes des autres. C'est crucial car on peut se servir de ces compétences dans d'autres domaines. Absolument, répond M. Dehaene. Le traitement du langage parlé est amélioré par l'apprentissage de la lecture. Maintenant qu'on a les moyens d'aller voir dans le cerveau avec l'imagerie cérébrale, on découvre les conséquences de ces changements. Dans le cas des nombres, on voit grandir la représentation des quantités dans le cortex pariétal. Dans le cas des correspondances graphèmes, phonèmes, on voit grandir une région visuelle qui reconnaît les lettres à la base du lobe temporal, mais aussi une région plus latérale qui code les phonèmes et la connexion entre les deux. Cette découverte vient d'expériences que nous avons réalisées en comparant les cerveaux de personnes analphabètes et alphabétisées à l'âge adulte au Brésil et au Portugal. Y a-t-il des choses à ne pas faire en termes d'éducation? Les recherches montrent clairement que les écoles doivent tenir compte des compétences précoces des enfants. De la naissance à la puberté, l'enfant absorbe les langues étrangères sans aucun effet. Si les parents parlent deux langues différentes, ce sera bénéfique pour la flexibilité des réseaux cérébraux de l'enfant parce qu'il apprend à passer d'une langue à l'autre. J'essaie de faire en sorte que les enseignants de la maternelle et du CP, alors je répète, nous sommes dans le système français, donc le CP, c'est au niveau primaire, soient davantage conscients que l'enfant n'est pas une ardoise vierge. On peut lui expliquer les choses complexes. L'enfant n'apprendra pas un vocabulaire élaboré que si on lui parle avec un vocabulaire élaboré. Il n'y a pas de raison de se limiter dans ce qu'on essaie de lui expliquer. Est-ce qu'en expliquant aux élèves et aux professeurs comment le cerveau fonctionne, on peut les aider à mieux apprendre? L'idée de Jean-Philippe Lachaud, qui est un directeur de recherche en France, est intéressante. Avec son programme ATOL, c'est-à-dire attentif à l'école, il propose d'expliquer aux jeunes élèves comment se concentrer. J'y vois un domaine essentiel, la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de soi et la confiance en ses propres capacités. Beaucoup d'enfants ont décidé depuis le départ qu'ils sont nuls en maths. C'est une attitude contre laquelle on doit lutter. Personne n'est nul en maths. C'est un domaine difficile dans lequel tout le monde éprouve des difficultés au départ, mais peut apprendre. Les enfants apprennent mieux si on étudie la notion qu'ils sont doués ou pas doués au profit de l'idée que chaque cerveau progresse sans cesse. Non seulement c'est la vérité, mais cet optimisme bienveillant aide les enfants à progresser. De magnifiques recherches du chercheur au CNRS Pascal Huguet ont montré les différences entre garçons et filles en mathématiques. Vous prenez un exercice où il faut copier une figure géométrique et vous dites à un groupe « on va faire du dessin » et à l'autre « on va faire des mathématiques ». Si vous dites « on va faire des mathématiques », les filles ont des scores beaucoup plus bas que les garçons. Si vous dites « on va faire du dessin », elles sont un peu meilleures qu'eux. De tels préjugés que les enfants de milieux défavorisés s'appliquent eux-mêmes ont des effets très importants à l'école et contribue aux résultats catastrophiques d'enquêtes internationales. Certaines études pointent également une baisse de QI général. Ne va-t-on pas trop loin dans le catastrophisme? En réalité, l'effet Flynn montre qu'en moyenne, depuis plus de 100 ans, les résultats de tests de QI progressent régulièrement partout dans le monde. Dans la dernière décennie, on observe une sorte de saturation, peut-être même une légère baisse. C'est très préoccupant, mais cette moyenne est réductrice. Le premier bénéfice de la France, c'est l'écart typé. La moyenne n'est pas mauvaise du tout. Le haut du panier est fantastique, mais le bas du panier, un désastre. Nos scores sont extrêmement étalés, et c'est malheureusement prévisible en fonction du niveau socio-économique des familles. C'est le deuxième scandale français. Notre école n'arrive pas à garantir l'épanouissement cognitif de tous les enfants, quelle que soit leur origine. Et comme de nombreuses familles n'ont pas les moyens, le temps ou l'idée de pratiquer des jeux avec les enfants, il faut que l'école les y aide. Alors, je poursuivrai après cette courte pause l'entrevue avec Stanislas Dehaene, ce chercheur français spécialisé dans l'apprentissage. Deux ans, est-on condamné? Alors, la question du point, toujours à M. Dehaene. Non, certains circuits se figent, mais beaucoup restent ouverts. Si on prend l'exemple du vocabulaire, on l'apprend aussi bien à l'âge adulte qu'enfant. Par contre, la phonologie se fige tôt. Si vous êtes né au Japon, votre cerveau a décidé avant un an qu'il n'y avait pas de différence entre un L et un R. Cette distinction ne sert pas, vous la perdez. Les étudiants japonais qui arrivent à Harvard n'entendent pas bien la différence entre élection et érection, ce qui est quand même ennuyeux. Les Français n'entendent pas la différence entre un tas rétroflexe et un tas dental. De la même façon, des études suggèrent, en scannant le cerveau de personnes analphabètes en cours d'apprentissage, qu'il est beaucoup plus difficile pour un adulte que pour un enfant d'apprendre à lire. Pourrait-on imaginer un lifting du cerveau chez des personnes plus âgées? Plus qu'à l'augmentation, je crois à la réparation. Si un accident vasculaire affecte la région du cerveau vouée à la reconnaissance des lettres, un adulte peut perdre définitivement la capacité de lecture fluide. À l'avenir, on pourra peut-être rouvrir la plasticité à travers l'entraînement, par exemple. Mais il faudra faire très attention, car d'autres connaissances, d'autres souvenirs pourraient aussi disparaître. Qu'est-ce qui fige la plasticité cérébrale au fil des années? Des sortes de filets rigides entourent les neurones et les figent. Les synapses deviennent beaucoup moins flexibles. Chez le petit enfant, entre 1 et 2 millions de synapses se font et se défont par seconde. Ce bouillonnement se fige à mesure que le système s'épaissit. Et en maths, qu'est-ce que ça donne? On ne sait pas s'il existe une période sensible en mathématiques. Nous avons tous l'impression que c'est difficile de faire des mathématiques si on n'a pas commencé tôt. Mais c'est plutôt après 20-25 ans que ça devient vraiment difficile. En musique aussi, on observe des effets très importants lorsqu'un enfant commence à pratiquer un instrument précocement. Mais il existe des exceptions. La plasticité du cerveau présente une grande variabilité d'une personne à l'autre. Le numérique peut-il corriger ou accentuer ces écarts? J'aime pas le terme numérique, qui veut plus dire grand-chose parce qu'il est partout. Selon le contenu des logiciels, les effets peuvent être positifs ou négatifs. Le GraphoGame est un logiciel de lecture ludique qui, avec une patience infinie, enseigne aux enfants les lettres et les phonèmes qui leur pose des difficultés. C'est un exemple d'excellent usage de la tablette. Nous avons nous-mêmes développé dans le laboratoire un logiciel appelé Élan pour la lecture et deux autres pour les mathématiques dans la petite enfance. La course au nombre et l'attrape-nombre qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Vous défendez une pédagogie explicite de l'informatique. Qu'entendez-vous par là? Pourquoi laisser l'enfant redécouvrir seul ce que l'humanité a mis des siècles à découvrir? Faut un enseignement explicite et graduel, conçu pour passer du plus simple au plus complexe. Dans les écoles Montessori, où l'enfant, on le sait, est très très autonome, on laisse à l'enfant le choix de son activité, mais en dirigeant fortement ce choix en fonction de l'objectif. Les activités sont programmées dans un ordre précis. L'enfant choisit parmi des fiches ordonnées et fait des activités conçues pour le faire monter progressivement en compétences cognitives et sociales. Il paraît qu'en Finlande, on fait gigoter les enfants dans la classe pour qu'ils se concentrent mieux ensuite. Gigoter, non, mais envoyer les enfants dehors, oui, pour jouer, se socialiser, s'épanouir et aussi voir la lumière du soleil et ne pas devenir myope. S'oxygéner est une bonne idée, mais pas en même temps que les cours, sinon on va forcément les distraire de leur activité. Une bonne oxygénation du cerveau à travers les activités sportives, de même qu'une alimentation équilibrée avec des vitamines et du glucose, ou encore le sommeil, sont essentiels. Le cerveau est un système biologique et l'apprentissage a un coût métabolique important. Pensez-vous que les périodes d'ennui soient utiles? Le cours magistral où l'enfant est assis et passif n'est pas ce qui marche le mieux. Faut un engagement actif de l'enfant. Cela signifie que son cerveau doit projeter des hypothèses au lieu de s'endormir et de s'ennuyer. On lui propose ensuite un feedback pour le corriger. C'est pour ça, entre autres, que je trouve la pédagogie de Montessori intéressante. Les objets pédagogiques eux-mêmes contiennent leurs propres récompenses. Et pour les cerveaux moins jeunes? Prenons des classes plus avancées dans le secondaire ou à l'université. Vous êtes étudiant en médecine et vous avez un an pour vous farcir la tête d'une quantité incroyable de faits. Comment faire? Il faut alterner les moments de cours, de révision et de test. En vous jaugeant, vous êtes actif, vous rafraîchissez vos connaissances, et il y a cet aspect métacognitif qui fait que vous découvrez ce que vous ne savez pas. Après, vous savez quoi réviser et avez une meilleure connaissance objective de vos capacités. Les étudiants surestiment souvent leurs compétences, car juste après la lecture d'un cours, l'information séjourne dans la mémoire de travail, celle qui nous sert à retenir un numéro de téléphone ou un code d'immeuble. Mais si vous voulez vous souvenir d'une information pour longtemps, il faut espacer les périodes de révision. Si vous voulez retrouver un souvenir dans un an, il faut le réviser tous les 3 mois. Répéter le même exercice, faire une dictée par jour, cela permet-il de mieux progresser? C'est très bénéfique. De nombreuses recherches montrent les bienfaits d'un apprentissage distribué, étalé par rapport à un apprentissage groupé. Il est également essentiel de parvenir à une automatisation des apprentissages les plus fondamentaux. Presque tous, au départ, sont difficiles. Si on regarde dans le cerveau, au début de l'apprentissage, on voit les régions du cortex préfrontal et pariétal liées à l'attention et à l'effort, énormément mobilisées. C'est pour cette raison que l'effort mental nous fatigue. Alors, l'entrevue avec Stanislas Dehaene dans Le Point, un spécialiste du cerveau et de l'apprentissage. Alors, moi, j'ai trouvé ça assez fascinant. Je voulais le partager avec vous. En fait, c'est un peu notre manière d'apprendre sur laquelle on se penche.
Je suis bitumineux, j'ai comme plein de sortes dans les yeux, je vois, je vois rien, ça paraît-tu, j'suis comme balancé sur mon cul. Je suis bitumineux, jusqu'à vous faire perdre les cheveux, je vous promets un beau cancer. Cancer parlementaire, je suis le dernier des gouvernements. Vu tuer notre environnement, j'ai une crampe au cerveau. Yeah. Je vous soumets mes résolutions, des mensonges pleins de pollution, j'ai une crampe au cerveau. J'aime pas la French culture, ça fait trop longtemps que ça dure. Je suis vraiment déterminé à vraiment vous éliminer. Je suis un vrai républicain, le reste moi je comprends rien. J'ai une crampe au cerveau, yeah, yeah. J'adore les Américains, le reste on n'a pas besoin. J'ai une crampe au cerveau. But I love you. Give you cancer, there's my answer. Put my guns right in your face. Make you run from the human race. I'm gonna dress you up like the Mother Queen. Fuck you up like you've never seen. Welcome to my one-man show. That's all you gotta know, but I love you so. Yeah, yeah. Welcome to my one-man show. If you don't like, I don't wanna know, but I love you. Rain. Wash my hands with my holy sands. I'm gonna give you cancer. There's my answer. Put my guns right in your face. I'm gonna make you run from the human race. I'm gonna dress you up like the Mother Queen. Fuck you up like you've never seen. Welcome to my one-man show. That's all you gotta know, but I love you so. Welcome to my one-man show. If you don't like, I don't wanna know, but I love you so.
Tous reconnus Serge Fiori et sa chanson « Crampes au cerveau ».
Alors donc, je ne sais pas si ça va nous donner des crampes au cerveau, mais là, on quitte la France et on va venir faire un petit saut au Québec. On reviendra en France tantôt, où cette semaine, on a annoncé un plan très important d'action numérique. Donc, ça va amener de nouveaux outils numériques dans les écoles dès cette année. Tommy Chouinard nous en parle dans la presse plus du 31 mai 2018. Toutes les écoles du Québec auront de nouveaux équipements technologiques cette année en vertu du plan numérique 2018-2023 du gouvernement Couillard. Québec investit 212 millions pour la première année de ce plan, dont 75 millions sont destinés à l'achat d'équipements technologiques pour les écoles, les cégeps et les universités. Il faut adapter le réseau d'enseignement à la révolution numérique en cours et intégrer les nouvelles technologies dans les pratiques d'apprentissage, a plaidé le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, qui dévoilait ce plan d'action en compagnie de sa collègue de l'enseignement supérieur, Hélène David. Au total, le gouvernement promet des investissements de 1,2 milliard en 5 ans, dont 212 millions cette année. De cette somme, 45 millions seront versés au Cégep et aux écoles, 20 millions au Cégep et 10 millions aux universités pour faire l'acquisition de nouveaux équipements. Le ministère a déjà demandé aux écoles de faire des choix dans une liste de 125 outils, des ordinateurs aux robots en passant par les tablettes et les imprimantes 3D. Il doit recevoir les réponses d'ici à la fin de la semaine. Les investissements seront au rendez-vous pour vous assurer le maintien de ces équipements au fil du temps, a rassuré Sébastien Proulx, aux côtés d'un robot qui n'a pas fonctionné au moment où il lui a laissé la parole. Le ministre a signalé que ce nouveau plan ne signifie pas la mise au rencard des tableaux blancs, dont l'achat massif par le gouvernement Charest avait connu bien des ratés. Québec prévoit 15 millions cette année pour former le personnel en vue de l'utilisation des nouveaux équipements. On a, dès cet automne, livré la formation aux enseignants, mais ça va se faire sur un certain temps. Il y a 100 000 enseignants au Québec, on ne va pas tout faire d'un coup, affirmé Sébastien Proulx. Il réserve un total de 153 millions en 5 ans pour soutenir le développement des compétences numériques du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Québec confirme la création d'un dossier numérique pour chaque élève qui le suivra tout au long de son parcours scolaire. Il sera accessible aux parents. 5 millions sont consacrés à l'élaboration du dossier d'affaires. Le coût total prévu n'a pas été divulgué. Le développement progressif est prévu à compter de 2020-2021. Québec veut également regrouper l'ensemble de l'offre de formation à distance en enseignement supérieur dans un e-campus. Donc, après la pause, je vais continuer avec finalement une suite à l'entrevue avec laquelle j'ai commencé l'émission. Alors, un peu plus tard, Francine Forgette au micro, qui vous retrouve tout de suite après.
Votre cœur à la maison.
Chanson dans la catégorie, même si elle dure 5 minutes, il me semble que j'en aurais pris vraiment pour plus longtemps. C'était Michel Rivard et Méfiez-vous du grand amour.
Quelle belle chanson. C'est beau, hein? Vous avez bien raison, Mathieu, comme d'habitude. Alors, Mathieu, on était en plein Québec avec Michel Rivard, oui. Mais notre voyage en France n'était pas terminé. Alors, donc, on va y retourner. Le temps d'un dernier article pour parler d'un logiciel qui s'appelle GraphoLearn, qui est expérimenté dans une école de Marseille. La lecture, un jeu d'enfant, alors c'est le titre de cet article d'Émilie Trévert, toujours dans le Point du 10 mai 2018. Il règne un calme absolu dans cette classe, l'école de la Morelette, est pourtant située dans un quartier du nord de Marseille, coincé entre une autoroute et une cité. L'établissement est régulièrement la cible de casseurs. Mais dans la classe de Natacha Robert, dédoublée depuis septembre, on oublie le bruit des poids lourds et des trafics qui gangrènent le quartier, et on travaille. 7 élèves ont les yeux rivés sur des manuels de lecture, 6 autres sur des tablettes tactiles. Jassem s'est mise à l'écart du groupe pour mieux se concentrer. Assis en tailleur sur un matelas posé à même le sol, casque sur la tête, il éclate des ballons avec son index sur l'écran de sa tablette. Le garçon de 7 ans est en train de jouer. D'apprendre à lire sur le logiciel GraphoLearn. À l'intérieur de chaque ballon, il y a une lettre qu'une voix off prononce. L'apprenti lecteur doit la toucher du doigt dès qu'il entend. C'est ce qu'on appelle la correspondance graphème-phonème dont on a parlé dans l'entrevue précédente que je vous ai lue, l'un des deux premiers articles que je vous ai lus. Le ballon disparaît et un petit oiseau s'envole. Ensuite, l'avatar de l'élève évolue dans un décor sous-marin ou champêtre. On passe aux syllabes, à 2, puis à 3 lettres, et aux mots à créer, puis aux phrases à composer, et ainsi de suite, sur 66 séquences de plus en plus difficiles. Comme près de 500 élèves des quartiers défavorisés de Marseille, Jassem teste depuis janvier GraphoLearn pour le compte du laboratoire de psychologie cognitive du CNRS Université d'Aix-Marseille, dirigé par Johannes Ziegler, également membre du conseil scientifique de Stanislas Dehaene. S'il est trop tôt pour tirer un bilan de cette expérimentation, en fait, les premiers résultats seront connus fin 2019. Il suffit de voir le regard attentif des enfants et la mine réjouie de l'institutrice pour comprendre ses effets positifs. C'est génialissime pour la gestion de classe, s'enthousiasme Natacha Robert, la trentaine pétillante, qui peut s'occuper quasi individuellement de 6 élèves pendant que les autres travaillent en autonomie. Ils sont vraiment dans leur bulle. Peuvent aller à leur rythme et avancer selon leur réel niveau de lecture. Mais le logiciel n'est pas là pour remplacer l'enseignant. Utiliser seulement la tablette, cela suffirait absolument pas, sinon on ne servirait plus à rien, estime celle qui continue à enseigner avec des méthodes classiques. Elle ne fait que déléguer les tâches répétitives à la machine pendant un laps de temps limité. Pas plus de 15 minutes. afin de ne pas accoutumer les élèves à l'écran qu'ils utilisent déjà tous à la maison. Le numérique, il y a pas mal mieux pour la répétition, avance Julie Lasso, neuropsychologue et doctorante sur ce projet baptisé Lemon. Faut des milliers de répétitions pour apprendre à décoder les mots. Un institut ne peut pas passer une heure par jour avec un seul élève pour lui dire que le son A correspond au graphème A. Évidemment, je parlais d'une institutrice. Le logiciel, lui, peut offrir cet entraînement et de manière ludique. Alors qu'il s'amuse à courir après des fantômes ou à gober des poissons, l'élève apprend, en fait, à automatiser les relations grapho-phonologiques. Sa concentration est à son maximum. L'enfant ne se rend pas compte que son cerveau travaille dur à créer des connexions qui vont du cortex visuel vers le langage oral, expliquait récemment à l'AFP le directeur de recherche Johannes Ziegler. Le chercheur, entendu au Collège de France en février lors du premier colloque du Conseil scientifique, estimait que le temps passé sur le code alphabétique en France est insuffisant. Avant de citer une étude de 2014 qui était parvenue à ce constat affligeant, les élèves de CP ne passent que 7 minutes par jour sur l'apprentissage du code, soit 20 heures par an, quand les Finlandais en passent 66. En utilisant GraphoLearn, 15 minutes par jour et 4 jours par semaine, les élèves gagneraient 16 heures par an en décodage, d'après les calculs des chercheurs marseillais. GraphoLearn est un des rares jeux sérieux sur la lecture à avoir été testé. En Finlande, où le concept du jeu est né il y a une quinzaine d'années, à l'origine pour des enfants qui étaient dyslexiques, il est aujourd'hui présent dans toutes les écoles et on en compte 267 000 utilisateurs enregistrés sur le jeu en ligne, recense Johannes Ziegler, qui travaille sur ce projet depuis 2015. La complexité de la langue française, un phonème pouvant correspondre à plusieurs graphèmes par rapport au finnois, a contraint les chercheurs à compiler 54 manuels de primaire afin d'en ressortir les 50 000 mots les plus fréquents et les plus réguliers. L'écran a évidemment un effet motivant sur les enfants, d'autant plus que les concepteurs du logiciel n'ont pas oublié la récompense. 2 minutes de bonus à la fin de chaque séquence. À chaque niveau validé, l'élève cumule des pièces d'or avec lesquelles il peut acheter des vêtements, des accessoires ou changer la couleur des cheveux de son avatar. Alors, l'expérience fascinante de GraphoLearn. Alors, je rappelle que c'est dans le Point du 10 mai 2018. Alors, ça close cette première partie, si je peux dire ainsi, qui porte sur l'éducation. Et maintenant, nous allons parler de santé avec le Dr Google.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Allez bien, j'aime lire. Mais non, je ne l'ouvrirai pas. Je la laisserai là, cachetée silencieuse. Je ne risquerai pas. J'aime lire les rapports de police, les torts. J'aime la garde à vue, le pas vers la bavure. J'aime lire les histoires de guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait. J'aime lire. Mais non, je précieuse, je ne risquerai pas, je ne la lirai pas, je la laisserai là. Grenade silencieuse, je ne risquerai pas. J'aime lire, je ne l'ouvrirai
pas. Mais non, tous mes passages, non ça je ne
la laisserai
pas.
Albin de la Simone, chanson qu'on fait souvent jouer parce qu'elle s'appelle « J'aime lire ».
Merci Mathieu, quel bel enchaînement. Hein? On a parlé de l'apprentissage à lecture, « J'aime lire », c'est notre plus belle motivation pour apprendre à lire. Alors donc, le docteur Google, dans son éditorial de l'édition de juin 2018, Marie Lambert-Chan, la rédactrice en chef de Québec Science, pose la question. C'est grave, docteur Google? L'autodiagnostic en ligne fait désormais partie de nos habitudes, mais qu'est-ce qu'on cherche? Et trouvons-nous les bonnes réponses? Semble-t-il qu'environ 50 % du contenu portant sur la santé dans Google serait incomplet, incorrect ou délibérément trompeur. Que celui ou celle qui n'a jamais googlé ses symptômes lève la main. Ah, Mathieu est de ceux-là, alors il y en a peu. Parce qu'en fait, 97 % des individus connectés se tournent vers le web pour obtenir des informations sur leur santé avant de se rendre chez le médecin. L'autodiagnostic en ligne fait désormais partie de nos habitudes, au même titre que d'avaler un cachet d'analgésique en cas de mal de tête. Mais que cherchons-nous exactement? Curieuse, l'équipe de Québec Science a consulté Google Canada. Ces experts ont extrait de leurs données les 50 questions de santé les plus fréquemment posées aux moteurs de recherche par les Québécois. Résultat, on s'interroge beaucoup sur les mots quotidiens, comme le hoquet et le ronflement, ainsi que sur les maladies, la santé sexuelle, la santé mentale, la nutrition et le sport. Rien d'étonnant aux yeux d'Alexandre Coutan, directeur du Centre de recherche sur la communication et la santé à l'Université du Québec à Montréal. Généralement, on s'informe en ligne pour trois raisons. Trouver des remèdes aux petits tracas et des réponses à des questions embarrassantes, en apprendre davantage sur les sujets dont parlent les médias et le marketing, comme le gluten, mieux comprendre tout ce qui relève des maladies sociales, comme le stress, l'angoisse et la fatigue. Ainsi, consulter le docteur Google est une façon de se rassurer en attendant de voir un médecin, affirme Alexandre Coutan. Un doudou numérique, quoi? Cela n'est pas sans mérite, alors que l'accès aux soins de santé demeure difficile au Québec. Mais encore, faut-il savoir où chercher sur le web pour ne pas se laisser berner par des sources d'informations incomplètes, incorrectes ou délibérément trompeuses? Selon certaines estimations, environ 50 % du contenu en ligne portant sur la santé tomberait dans l'une de ces catégories. De quoi alimenter des sentiments d'angoisse et de confusion chez les internautes qui, déjà préoccupés par des symptômes souvent bénins, finissent par croire qu'ils sont atteints d'un mal incurable. Alors donc, je poursuis avec un premier thème que j'ai retenu. Il y en a 50, on ne les lira pas tous aujourd'hui, mais on va certainement continuer un peu la semaine prochaine. Mathieu, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des périodes de hockey?
Oui.
Ah,
oui,
ça, bon.
Oui.
Alors,
des séries, oui.
Vous savez comment vous en débarrasser?
Oui, j'en connais plein de trucs. Arrêter
ouais.
de respirer, boire un verre d'eau à l'envers, essayer de se faire peur soi-même.
Hey, on dirait que vous avez écrit l'article. En tout cas, ça commence par boire un verre d'eau la tête en bas, avoir peur, retenir sa respiration, sucer un glaçon ou un citron, croquer un morceau de sucre avec du vinaigre ou encore sauter à pieds joints les bras en croix.
Sauter à pieds joints les bras en croix.
Oui, monsieur, les bras en croix.
Eh bien,
alors, on appelle ça des remèdes de grand-mère. Je dirais de grand-père, hein, aujourd'hui, là, franchement, pour faire passer le hockey, sont aussi variés que loufoques. C'est la preuve que le hockey reste en partie un mystère, tant pour les grands-mères que pour les scientifiques. Connu médicalement sous le terme singultus, ce mot latin pour sanglot, le hoquet est dû à des contractions involontaires des muscles respiratoires, en particulier le diaphragme et les muscles intercostaux. Ces contractions entraînent une respiration rapide d'air, suivie par la fermeture brutale du larynx et de la glotte qui provoque le fameux hic, plus ou moins retentissant. Le phénomène a beau être très courant, y compris chez les animaux, sa fonction biologique n'est pas claire. Chez les adultes, il ne semble jouer aucun rôle physiologique. Cependant, l'observation fréquente de hoquets chez des fœtus in utero lors des échographies prénatales suggère qu'il pourrait servir à entraîner les muscles respiratoires afin qu'ils soient prêts pour la respiration après la naissance. C'est ce qu'on peut lire du moins dans une revue de littérature publiée sur le sujet en 2015. Pour d'autres chercheurs, ce réflexe qui fait intervenir plusieurs nerfs, dont le nerf vague, permettrait plutôt au fœtus d'avaler du liquide amniotique en début de grossesse et de le faire circuler dans son organisme avant que le réflexe de déglutition se développe. Cela expliquerait pourquoi le fœtus passe 12 % de son temps à hoqueter entre la 9e et la 14e semaine de grossesse. Après la naissance, le hoquet peut être déclenché par un trop gros repas, un reflux gastro-œsophagien, la consommation d'alcool ou de certains médicaments, notamment des anesthésiants, mais il survient le plus souvent sans cause évidente et il s'arrête de lui-même au bout de quelques minutes. Alors, comment on peut faire passer le hoquet? Alors, il est difficile de trouver des études scientifiques fiables sur les remèdes. Le citron ou le vinaigre, en stimulant les nerfs du larynx, peuvent court-circuiter le réflexe de hoquet. Le fait de retenir son souffle en augmentant la concentration sanguine en dioxyde de carbone pourrait aussi aider à faire cesser les contractions musculaires. Un massage rectal digital a été proposé en 1988 à un patient admis aux urgences d'un hôpital de Floride pour un hoquet qui durait depuis 3 jours. Le rectum étant particulièrement innervé, l'idée était de stimuler le système nerveux parasympathique pour interrompre les spasmes. Selon le rapport médical, la manœuvre fut hautement efficace. Mais on doute de votre volonté de l'essayer, comme dit l'équipe de Québec Science. Alors, bon, après cette courte pause, on aura sûrement l'occasion de revenir peut-être de façon très courte là, sur un autre bobo et comment le résoudre.
Je l'aimais tant, mon mari. vais chercher monsieur le curé pour qu'il vienne prier pour lui.
Nathalie qui chantait une chanson d'Yves Lambert, « Mon mari est bien malade ».
Alors, merci beaucoup, Mathieu. Alors, pour finir cette émission du 1er juin 2018 de Voix de Service Magazine, que faire quand j'ai mal aux dents? Alors, donc, on poursuit dans Québec Science. On apprenait en février dernier que plus du quart des Québécois évitent le dentiste en raison des coûts élevés. Ce constat de l'Institut de recherche et d'information socio-économique a-t-il un lien avec cette question posée maintes et maintes fois dans Google? Combien parmi vous cherchent des trucs pour éviter un séjour dans le fauteuil du dentiste? La meilleure solution reste d'aller chez le dentiste. Il demeure le mieux placé pour trouver la source de vos maux. Alors, ça peut être une carie, un traitement de canal, un abcès, etc. Et si on parle de coûts, alors, bien, si le budget est restreint, on peut contacter les facultés de médecine dentaire de l'Université McGill, de l'Université de Montréal ou de l'Université Laval qui offrent des consultations à prix réduit. Comment déboucher une oreille? Alors, jamais utiliser le coton-tige. Pour nettoyer ou déboucher les oreilles dans les règles de l'art, on utilise une débarbouillette. Le doigt dans la débarbouillette va aller chercher ce que l'oreille elle-même a éliminé, explique le spécialiste. Alors, la semaine prochaine, on pourra peut-être parler de comment soigner une brûlure ou encore de sujets plus, je dirais, beaucoup plus sérieux, comme par exemple soigner ou éviter le cancer. Alors, vraiment, bonne semaine à tous. Merci, Mathieu. 1er juin 2018, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Francine Forget.